Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée Chemin de vérité. Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'études sur le mariage avec une étude du rôle de la femme dans le foyer. Pour que nos mariages soient heureux, nous devons tous comprendre et accepter les rôles que Dieu a établis pour l'homme et pour la femme. Dans une autre leçon, nous avons parlé particulièrement des responsabilités du mari dans le foyer. Selon la Bible, l'homme est le chef de la famille et doit être un bon conducteur. Il doit prendre soin de la famille sur le plan matériel. Il doit aimer sa femme. Il doit éduquer ses enfants pour que ceux-ci connaissent Dieu et sa volonté. Mais aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur les devoirs de la femme. Qu'est-ce que Dieu attend de la femme dans le contexte du mariage? Si l'homme est appelé surtout à être le chef et à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, la première responsabilité de la femme est la soumission. Colossiens 3, verset 18 dit « Femme, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. » 1 Corinthiens 11, verset 3 contient le même principe. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Si le mari va diriger la maison, il faut la coopération de la femme. Elle a le devoir de permettre à son mari d'être le chef. Le mari et la femme ne sont pas des rivaux, mais des coéquipiers. Il n'est pas question de contester la position d'autorité dans la famille. Dieu l'a déjà donnée à l'homme. Au lieu de vouloir arracher cette autorité à son mari, au lieu de le dominer ou de toujours le critiquer dans ses décisions, la femme doit le laisser conduire et essayer de le soutenir. Elle ne peut pas, bien sûr, le soutenir dans des actions qui sont contraires à la volonté de Dieu, telle qu'elle nous est révélée dans la Bible. Mais en toute autre circonstance, elle doit le soutenir et l'encourager. Dire que la femme est soumise ne signifie pas qu'elle ne doit même pas donner son point de vue sur ce qui concerne sa famille. Un mari qui a un minimum de sagesse et qui aime sa femme veut entendre les idées et les suggestions de sa femme. Et il les prend en considération. Mais quand les époux ont assez parlé ensemble et qu'ils ne sont toujours pas d'accord, c'est le mari qui a l'autorité de prendre la décision finale. Et la femme chrétienne se soumet à ce que son mari a décidé. Elle enseigne également à ses enfants de respecter l'autorité de leur père. Elle ne cherche pas à contourner ses décisions quand il n'est pas là. Elle ne le dénigre pas en présence de ses enfants. Elle est soumise. Soulignons que le devoir de se soumettre à son mari ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme ou qu'elle se croit inférieure. Vous obéissez aux policiers et aux gendarmes. Ce n'est pas parce qu'ils sont forcément plus intelligents ou de meilleur caractère que vous. Cette obéissance que vous leur donnez ne veut pas dire qu'ils vous sont supérieurs. Cela veut dire qu'ils sont dotés d'une autorité que vous reconnaissez et que vous les respectez à cause de cette autorité. Une femme peut être plus intelligente ou avoir plus de bon sens que son mari. Elle doit quand même être soumise. Une autre femme peut avoir plus de force physique que son mari, surtout s'il est malade ou âgé. Cela n'a rien à voir avec la question de soumission. Une autre femme peut gagner plus d'argent par son travail que son mari ne gagne par le sien. Cela ne la dispense pas de la nécessité de se soumettre. Ce devoir ne s'applique pas seulement à la femme qui a pour mari un chrétien. 1 Pierre 3, versets 1 et 2 dit ceci. « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Encore, la femme ne doit pas obéir à son mari s'il lui dit de faire ce qui est manifestement contraire à la loi de Dieu. S'il lui dit, par exemple, d'adorer une idole ou de voler. Mis à part de telles situations, la femme se soumet. Une deuxième responsabilité de la femme consiste dans les soins domestiques. Dans son épître à Tite, Paul lui dit ce que les femmes qui sont mûres doivent enseigner aux jeunes femmes dans l'Église. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Tite 2, versets 3 à 5. Tandis que le travail de l'homme se trouve le plus souvent hors de la maison, la femme s'occupe spécialement du foyer. Elle cherche à créer une ambiance accueillante et chaleureuse qui plaît à son mari. Par son travail à la maison, elle peut manifester son amour pour sa famille. Elle prend soin à la préparation de repas sains et appétissants. Elle habille sa famille en vêtements propres et en bon état. Elle nettoie la maison, etc. On dit avec raison que le travail d'une femme n'est jamais achevé. Le mari doit comprendre cela et ne pas être déraisonnable dans ses exigences. Il ne devrait pas s'attendre à ce que la femme fasse autant de travail que lui dans les champs, et puis, pendant que lui, il se repose, la femme doit puiser et chauffer de l'eau pour que monsieur se lave, préparer son repas, s'occuper des enfants et faire le ménage. Une bonne femme n'est pas paresseuse et elle fera tout ce qu'elle peut pour s'occuper de sa famille. Elle le fera d'ailleurs de bon cœur, par amour. Mais que le mari ne cherche pas à l'exploiter ou à la traiter comme son esclave. Une femme peut-elle travailler en dehors de son foyer? Le chapitre 31 du livre de Proverbes nous décrit une femme idéale. Il est évident que la femme qui est décrite dans ce passage fait du commerce en même temps qu'elle s'occupe de sa famille. On peut dire même que ses activités qui lui procurent de l'argent lui permettent de mieux faire en satisfaisant aux besoins de son mari et de leurs enfants. Si un mari et sa femme s'entendent là-dessus, rien dans la Bible n'interdit à la femme de travailler pour un salaire ou de faire du commerce, mais qu'elle ne néglige pas ses responsabilités envers son mari et ses enfants à la maison. Celles-ci sont prioritaires. Un troisième devoir de la femme est d'aimer son mari, tout comme le mari a le devoir d'aimer sa femme. Nous avons vu cette idée en Tite, chapitre 2, verset 4, où il est dit que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Comme nous l'avons dit, un homme ne doit pas traiter sa femme comme une esclave. De même, la femme ne doit pas penser comme une esclave. Elle sert sa famille par amour. Nous avons parlé des différentes manières par lesquelles un homme peut manifester son amour envers sa femme. Pareillement, la femme montre de plusieurs façons qu'elle aime son mari. Elle fait de son mieux dans son travail domestique et elle le fait sans se plaindre. Elle s'habille de façon à lui plaire. Elle lui offre des paroles d'encouragement quand il a des difficultés. Elle exprime sa reconnaissance pour le travail qu'il fournit. Elle reçoit bien les amis et les parents de son mari. Elle lui parle respectueusement. Quand elle n'est pas contente de ce qu'il fait, elle ne le critique pas devant les autres, mais attend l'occasion de lui parler discrètement. Et elle prie pour lui chaque jour. Enfin, la femme a une responsabilité d'exercer une bonne influence sur ses enfants. La femme partage avec son mari le devoir d'éduquer les enfants selon le Seigneur, surtout en vue du temps considérable qu'elle passe avec les enfants quand ils sont jeunes. Timothée était un jeune homme dont le père était grec et ne croyait pas en Dieu. Sa mère et sa grand-mère étaient des juives qui aimaient Dieu. Grâce à ces femmes pieuses, Paul dit à Timothée, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » 2 Timothée 3, verset 15. Les saintes lettres sont bien sûr les Écritures, la parole de Dieu. Paul dit encore à ce jeune homme qu'il gardait le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Louis et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. 2 Timothée 1, verset 5. Comme la mère et grand-mère de Timothée, les femmes chrétiennes doivent enseigner les Écritures à leurs enfants, même quand ils sont petits. L'influence de la mère sur les enfants est grande, pour le bien ou pour le mal. Elle doit donc aider son mari dans la tâche d'élever les enfants. Pour conclure, écoutez la description de la femme idéale que nous trouvons en Proverbe 31, versets 10 à 31. Une femme vaillante est une véritable trouvaille. Elle a plus de valeur que des perles. Son mari place sa confiance en elle. Elle ne lui gaspille pas son bien. Elle ne lui cause jamais de tort, mais elle lui donne du bonheur dans tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille de ses mains avec ardeur. Pareil au navire marchand, elle amène de loin sa nourriture. Elle se lève avant le jour, prépare le repas de sa famille et distribue à ses servantes leur travail. Après avoir bien réfléchi, elle achète un champ et plante une vigne grâce à l'argent qu'elle a gagné. Elle se met au travail avec énergie et ne laisse jamais ses bras inactifs. Elle constate que ses affaires vont bien. Elle travaille même la nuit à la lumière de sa lampe. Ses mains s'activent à filer la laine, ses doigts à tisser des vêtements. Elle tend une main secourable aux malheureux. Elle est généreuse envers les pauvres. Elle ne craint pas le froid pour les siens, car chacun dans sa maison a suffisamment de vêtements. Elle se fabrique des tapis et porte des habits raffinés en lin pourpre. Son mari est un notable honorablement connu. Il participe aux délibérations du conseil de la ville. Elle confectionne des vêtements et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands qui passent. La force et la dignité sont sa parure. Elle sourit en pensant à l'avenir. Elle s'exprime avec sagesse. Elle sait donner des conseils avec bonté. Elle surveille tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester inactive. Ses enfants viennent la féliciter. Son mari chante ses louanges. « Bien des femmes se montrent vaillantes, dit-il, mais toi, tu les surpasses toutes. » Le charme est trompeur, la beauté passagère. Seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. Sa peine doit être récompensée. Son travail doit susciter le respect de toute la ville.